Conclusion 103. Toutes ces connaissances, sans doute, sont très estimables. Mais quelque belles qu'elles soient, elles ne sont rien, et l'éclat dont elles brillent n'est qu'un faux éclat, un éclat trompeur, si le bon usage que l'on en fait n'en relève le prix. Dans un mauvais cœur, la science tourne en poison. C'est le sage emploi des talents qui fait le citoyen. Et le citoyen, comme on l'a dit d'abord, est la seule chose que puisse avoir en vue un gouverneur honnête homme. C'est de lui que cela dépend, il est comme le pivot de la machine. 104. Après le choix de ce gouverneur, la chose donc qu'il importe le plus est de le conserver. Il est difficile de changer impunément de médecin, ce qui est plus vrai encore au moral qu'au physique, principalement en fait d'éducation. Mais on n'aura rien à craindre de semblable, si l'on considère l'espèce de dette qu'acquitte le gouverneur, la peine attachée à ses devoirs, la difficulté de le remplacer, le préjudice que causerait son éloignement, et l'importance dont il est qu'il ait l'esprit tranquille sur l'avenir. 105. Les hommes sont partout les mêmes à plusieurs égards, et la manière de les captiver est la même. Des procédés droits et un salaire proportionné aux sacrifices qu'ils font sont le seul lien dont on les enchaîne. Précis analytique du plan. Premièrement, en rapprochant, sous un même coup d'œil, les principaux objets du plan, on voit que le but que l'on s'y propose est de préparer, dans l'enfant, un nouveau citoyen à l'État et un ami sûr aux parents. Deuxièmement, la première chose à laquelle on s'attache est la formation du cœur. Troisièmement, la vie que mène l'enfant est une vie retirée, uniforme, réglée et laborieuse. Quatrièmement, sa nourriture est saine et abondante. Cinquièmement, les récréations, propres à délasser l'esprit, sont les seules permises. Sixièmement, les deux sexes sont soigneusement surveillés, tenus séparés, avec des gens sages et dans la plus grande propreté. Septièmement, la vigilance la plus scrupuleuse et la plus assidue, la prudence et le courage, la douceur et la modestie, sont des vertus que l'instituteur se propose de pratiquer le plus fidèlement qu'il lui sera possible. Huitièmement, les soins du ménage ne sont point pour lui. Présider aux exercices et servir d'exemple, telle est sa tâche. Neuvièmement, celle des maîtres est d'enseigner avec douceur, d'être patient et honnête. L'exactitude et la capacité sont des qualités que l'on exige d'eux. Dixièmement, les domestiques sont des domestiques choisis. L'amour du jeu, de la boisson et de la débauche sont des titres qui les font exclure. Onzièmement, on fait grand cas des récompenses. Les plus honorables sont pour la bonne conduite. Ces récompenses sont des livres, un ruban ou une croix. Douzièmement, les châtiments sont rares, proportionnés aux fautes et infligés avec douceur. Treizièmement, le bien et le mal que fait l'élève est écrit et laissé sous ses yeux. Quatorzièmement, la règle est exposée par écrit à la vue de tous. Quinzièmement, les élèves sont partagés, les plus forts concourant avec les plus forts et les plus faibles avec les plus faibles. Seizièmement, dans l'enseignement, c'est l'usage que l'on suit et la volonté des parents. Dix-septièmement, ce que l'on enseigne, on l'enseigne par principe. Dix-huitièmement, la religion, la lecture, l'écriture, le calcul, l'orthographe, la ponctuation, la manière d'écrire une lettre, la géographie, la chronologie, l'histoire et la mythologie sont les choses que l'on enseigne, les unes plus profondément et les autres moins, selon leur plus ou moins d'utilité. Les langues, russes, françaises et allemandes, sont cultivées avec soin et enseignées par une même méthode. Ces objets-là sont comme la base de l'éducation. Ceux qui suivent, tels que la danse, la musique, le dessin, les armes, les mathématiques, la tenue des livres de compte, les langues italiennes, anglaises, latines, etc., sont autant de parties qui dépendent de la volonté des parents. Dix-neuvièmement, les meilleurs auteurs sont ceux dont on se sert, les meilleures cartes, celles que l'on emploie, et l'on met les matières les plus à la portée des enfants qu'il est possible, par des extraits faits en chaque genre, le plus méthodiquement qu'il se peut. 20. Tout ce qui pourra améliorer l'éducation sera toujours adopté volontiers. 21. Tel est le précis de ce plan, dont la parfaite exécution ne peut avoir lieu si les parents ne s'imposent pas l'obligation d'y concourir autant qu'il est en leur pouvoir. Remarques ajoutées à l'original. 1. Sur le plan d'un cours de langue française, cité dans l'avertissement. Ce plan d'un cours public de langue française, lequel a été imprimé séparément à Saint-Pétersbourg, ne s'est trouvé ni en manuscrit ni imprimé dans aucun des papiers que, par miracle, l'auteur a dérobé aux fureurs de la persécution et a porté de la Russie avec lui. Mais cette lacune, s'il ne la remplit pas, du moins la réparera-t-il abondamment par plusieurs pièces qui, sous la presse, après sa lettre au comité d'instruction publique sur son nouveau système de lecture applicable à toutes les langues, vont suivre ses réflexions et qui auront pour titre l'une « Le petit-fils du manœuvre à l'impératrice de toutes les Russies » et l'autre « La justice rendue sous Catherine II », etc. On les trouvera là où se trouveront ces réflexions, rue Saint-Martin, numéro 344, et pont Saint-Michel. 2. Sur l'emploi des tables qui suivent. Le disciple apprend bien ou mal, ou apprend médiocrement, ou n'apprend rien. Ces gradations du bien au mal, que l'on peut multiplier par bien ou très bien, et par mal ou très mal, le maître jour par jour les désignera selon l'espèce de besogne dans la colonne destinée pour cela par des signes qu'il aura invariablement adoptés, tels par exemple que ceux-ci qui désignent B majuscule très bien, petit b bien, petit p passablement, petit m mal, M majuscule très mal, petit o rien, c'est-à-dire que l'écolier n'aura pas fait la besogne indiquée par le titre de la colonne où se trouvera placé le signe. Ce que l'on vient de dire doit s'appliquer aux deux premières tables. Quant à l'errata, il faut que l'écolier lui-même, car ce que l'on a fait, soi-même, on le retient mieux, prenne la peine d'écrire ses fautes sur la première colonne et vis-à-vis sur l'autre, la correction sous la dictée du maître. Chaque élève doit avoir pour son usage propre une certaine provision de tables, sinon les mêmes, du moins dressées dans le même esprit et adaptées aux circonstances. Peut-être, car la critique est aisée, m'objectera-t-on que ces détails sont minutieux et qu'ils exigent beaucoup d'attention et de patience, etc. Objection frivole, dictée par la paresse, et auquel, après ce que j'ai dit, tant dans l'avertissement que dans le corps de l'ouvrage, article 35, et ailleurs, je n'ai qu'une chose à répondre, c'est qu'il s'agit ici, comme en politique, non de beaucoup faire, mais de bien faire, et qu'il faut, après tant de siècles de légèreté, non un feu de paille qui s'allume et qui s'éteigne aisément, mais un feu durable. D'ailleurs, j'ai fait usage de tables semblables où, jour par jour, je marquais les fautes de mes élèves et m'en suis bien trouvé. Or, ce que j'ai fait de la sorte, d'autres, avec le même zèle, peuvent le faire avec le même succès. Enfin, ces réflexions, je les adresse non aux beaux esprits, mais aux bons esprits, les seuls que, lorsque j'écris, j'ai en vue.